Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Méninges. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, Otman, tu as décidé de nous présenter un essai de Barbara Stiegler intitulé « De la démocratie en pandémie ». Pourrais-tu nous expliquer pourquoi il t'a semblé intéressant de nous parler de ce bouquin ?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Alors je dois commencer par un aveu. Ce bouquin de Barbara Stiegler a végété sur la table de mon salon pendant des plombes. Je l'avais acheté en librairie parce que le titre avait aiguisé mon intérêt, mais probablement saturé par cette période absolument abominable pendant laquelle on avait été sommé de vivre en résilience surveillée, j'avais jamais vraiment eu le courage de me pencher dessus. Alors aujourd'hui, comme qui dirait, l'eau a coulé sous le pont Saint-Goustan, et une actualité abominable en a chassé une autre, et il m'est désormais possible de prendre un peu de recul pour essayer de mettre des mots sur ce qu'on a vécu à cette époque-là. Tu remarqueras que j'ai pas mis des mots sur les mots.
Exactement.
De reparler un peu de cette espèce d'hallucination collective, de galop de l'absurde qui a tout entraîné sur sa route, alors même qu'on avait la prétention d'être le pays de la raison, avec Descartes, de la science, avec Pasteur, de la révolution et de la liberté.
Avec Geoffroy de la Gadrique.
Alors, à ce titre, l'essai de Barbara Stiegler s'est révélé être très intéressant et très instructif. Et la thèse qu'elle y développe sort un peu de la binarité à laquelle on nous a habitués et qui aborde la gestion de l'épisode Covid soit sous l'angle de l'impérieuse nécessité, soit sous celui du complot.
Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter Barbara Stiegler ou Barbara Stiegler, je ne sais pas exactement comment on dit, en deux mots.
Oui, alors Barbara Stiegler, moi je dis Stiegler, est une philosophe spécialiste de Nietzsche et particulièrement du rapport entre la biologie et la pensée du philosophe allemand. Elle est maître de conférences à l'université de Bordeaux où elle dirige le master qui s'intitule, je crois, Soins, éthique et santé. Elle est donc dans le cadre de la critique de la politique sanitaire du gouvernement Macron pendant le Covid, ce qu'on pourrait nommer une sachante ou une experte. Son essai, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas simplement un moyen d'énoncer des généralités sur la démocratie, la liberté, un peu comme pour s'acheter une forme de bonne conscience a posteriori, mais c'est bel et bien un outil critique de philosophie politique paru en décembre 2020. Alors, pour ne pas vous prendre en traître, je précise que Barbara Stiegler est engagée politiquement. C'est une femme de gauche qui a soutenu le mouvement des Gilets jaunes et la contestation de la réforme des retraites. Son essai intitulé « De la démocratie en pandémie » n'a pas la prétention d'être neutre, au contraire. C'est même une sorte de pamphlet contre le néolibéralisme par le truchement de la crise sanitaire qui n'aurait été que l'accélérateur d'un projet économique, social et politique qui mature depuis les années 30, en fait, dans les années post-Grande Dépression.
Ok, et donc cet essai de... Qu'est-ce qu'il raconte exactement ?
Alors, Barbara Stiegler part d'une affirmation centrale. Plutôt que de se taire pour ne pas ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de faire en sorte que la discussion scientifique ait lieu, de manière publique qui plus est, pour restaurer le lien de confiance entre le savoir et le citoyen, condition sine qua non de la démocratie. Son essai de la démocratie en pandémie est le fruit d'une réflexion collective avec des chercheurs, des enseignants, des soignants, des étudiants. C'est une réflexion pluridisciplinaire mêlant de la santé publique, de la pratique hospitalière, du droit, de la philosophie politique. C'est ce qui en fait, à mon sens, une œuvre complète et une proposition conceptuelle totale.
Ok. Et est-ce qu'elle énonce une sorte de postulat de base qui structurerait sa réflexion ?
Tout à fait. Et attention, ça va piquer un peu, surtout ceux qui ont pour habitude, disons, de têter la pensée dominante. Alors, le Covid-19, nous dit Stiegler, n'est pas une pandémie. et c'est pas elle qui le dit, mais Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du journal médical britannique The Lancet. Pour Horton, le Covid-19 serait plutôt une syndémie, c'est-à-dire une composition de maladies, de facteurs biologiques et environnementaux qui, par leur synergie, vont venir aggraver les conséquences des dites maladies sur une population donnée. Pour être plus clair, on a des maladies chroniques, comme le diabète ou l'obésité, dont les effets sur la santé vont être intensifiés par le démantèlement des systèmes publics de santé et les modes de production contemporains. Ce qu'il y a d'intéressant, et même de crucial, devrais-je dire, c'est qu'on ne lutte pas contre une syndémie avec un vaccin ou un traitement, mais avec un changement de modèle économique, social et politique. Voilà donc le postulat de base de l'essai de Stigler.
Ok, c'est la raison pour laquelle tu as parlé de pamphlet tout à l'heure. Parce qu'en évoquant la crise sanitaire, c'est finalement tout un système économique et social que Stigler fustige, de manière radicale, si tu veux.
Oui, elle place sa démarche intellectuelle dans la filiation de Marc Bloch, officier et historien, qui avait en son temps écrit « L'étrange défaite » pour analyser et comprendre de manière objective les raisons de la défaite de 1940. Marc Bloch pointait déjà du doigt la paresse et la lâcheté de ces gens qui préfèrent, je cite, « se confiner dans la quiétude de leurs ateliers plutôt que de crier leur foi ». Fin de la citation. Pour Stigler, la première cause profonde de l'émergence du Covid et des nouvelles maladies de manière générale, c'est l'industrialisation des modes de vie, des élevages et la mondialisation des échanges qui dégradent la santé des populations. Si les réponses politiques apportées à l'émergence du Covid ont été particulièrement inadéquates, c'est parce qu'elles se sont quasiment toutes fondées sur une analyse fausse. Non, l'épidémie n'est pas un aléa naturel auquel il faudrait s'adapter en accueillant à bras ouverts un monde nouveau fait de masques, de confinements réguliers et de vaccinations intensives. Et c'était le devoir des experts du domaine de la santé que d'énoncer cette vérité. Mais la grande majorité d'entre eux a préféré servir de caution à cette fausse analyse participant à l'édification d'un monde binaire, opposant les rassuristes aux enfermistes, les populistes du laisser-faire aux progressistes du quoi qu'il en coûte. Stigler en est convaincu, oui, il existait bien une nuance entre ces positions. Pour faire preuve de nuance, donc d'intelligence quelque part, il aurait fallu ne pas fonder toute sa stratégie sanitaire sur une science très approximative, la modélisation épidémiologique, dont la seule obsession est le contrôle de la propagation de l'agent pathogène, parce qu'elle modélise l'épidémie en se fondant sur les modes de transmission de la peste. Cet élément est absolument fondamental. C'est cette modélisation qui a abouti à la désignation du Covid comme une pandémie, terme qui, issu du grec pandémia, et signifiant le peuple tout entier. Ce qui suggère que le mal peut frapper tout le monde, partout et à tout moment. On apprendra avec du recul que si le Covid était bien létal, il n'était dangereux que pour une infime partie de la population, la plus fragile, les vieux et les malades.
Les personnes âgées et les personnes en situation de maladie.
Nos aînés. Le caractère extraordinaire du Covid, nous dit Stigler, est donc moins endogène au virus comme entité biologique qu'aux circonstances sociales et politiques. Ainsi, ce que le virus aurait démontré, c'est le sous-développement des systèmes de santé publique qui ont privilégié l'accès à un arsenal biotechnologique coûteux, qui ont misé sur l'innovation plutôt que sur le soin. Alors, il n'est pas étonnant que dans ce contexte, quand un virus nouveau apparaît, on enferme tout le monde et on attend que le salut vienne d'une innovation pharmaceutique. Jusqu'en 2020, qui aurait pu imaginer qu'enfermer tout le monde s'inédié était une option sanitaire acceptable. Qui aurait cru que les gouvernements comme les médias allaient louer le civisme asiatique, nous expliquant que la pandémie n'était pas un objet de discussion, mais que c'est la démocratie qui est devenue un objet discutable. Stigler dresse alors un parallèle que j'ai trouvé très intéressant. En 2015, après les attentats, on s'était enorgueilli de ne pas renoncer à nos habitudes et à notre culture démocratique face aux barbares. Nos valeurs ne se négociaient pas, cher Pierre. Tu t'en souviens ?
Vous n'aurez pas notre veine.
Exactement, je bois des verres en terrasse.
Ouais.
Là, en un claquement de doigts, il a fallu marcher droit, le doigt sur la couture du pantalon. Il n'y avait plus de valeur et tutti quanti, c'était fini. On s'est réveillé un beau jour dans un pays qui s'est grimé en Chine, avec un nouvel idiome et des nouveaux concepts. Confinement, déconfinement, traçage, cas contact. Dans un monde de cybersécurité dans lequel tout le monde est suspect. Et ce nouveau pays qu'on ne reconnaissait pas disposait d'un imaginaire particulier, le cluster. Dans cet imaginaire, les rassemblements, les places publiques, les universités sont a priori des foyers infectieux, là où les transports et les supermarchés sont réputés sûrs. Et l'idiome de ce pays étrange est lui aussi étrange. Son lexique mêle le Moyen-Âge, couvre-feu, quarantaine, et la gestion des risques, sans rechigner à permettre aux technocrates de laisser libre cours à leur génie créatif. Bulle de contact, attestation dérogatoire, vacances apprenantes, plage dynamique. Exit tout ce qui avait structuré notre rapport à la santé depuis des lustres, le consentement libre et éclairé, l'autonomie. Table rase.
Tout ce qu'on trouve dans le code de la santé publique dès les premiers articles.
Tout à fait. Réalité. Exactement. Et dans ce pays étrange, tous les habitants sont réputés potentiellement malades, et donc considérés comme des patients, mis sous la tutelle de gouvernants devenus experts en santé. Dans ce pays étrange, le président de la Ligue contre le cancer passe sur France Culture pour dire, je cite, ouvrez les guillemets, « En temps de pandémie, la démocratie est un inconvénient. » Fin de la citation. Dans ce pays étrange, les médecins signent une pétition pour demander aux rédacteurs de tribune de ne pas polémiquer sur les mesures gouvernementales pour ne pas ajouter de la confusion dans l'esprit des Français. La société mise sous cloche, le pouvoir omnipotent peut se permettre de ne conférer des droits que s'ils ont vocation à soutenir une cause qu'il a adoubée. Ainsi, les manifestations contre la réforme des retraites sont interdites. Mais il est permis de manifester contre le séparatisme islamiste après un attentat. C'est ça le monde d'après. Un monde dans lequel le pouvoir élimine la démocratie en soumettant la science à son propre agenda. Un monde qu'Alexandre Labruf, a parfaitement résumé dans Un hiver à Wuhan. Je cite, « Il est désinfecté mais pollué. C'est le monde d'avant en pire, en plus hygiénique. L'humanité y est silencieuse, censurée d'émotions. Élevé dans la haine de la dissonance et l'amour de la Javel. » Fin de la citation. Et comme décrit par Marc Bloch dans L'étrange défaite, encore une fois, les clercs et les savants se sont tus. Ça devient quand même une bien fâcheuse habitude.
Ça me rappelle aussi La trahison des clercs de Julien Banda.
Ouais.
Qui défend une idée assez proche dans un contexte quand même assez différent. Alors comment Barbara Stiegler explique ce basculement, ce brusque changement de régime?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait que sa critique est efficace, c'est qu'elle ne tombe pas dans la caricature complotiste un peu facile. Ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas. Pour comploter, il faut encore être dans la rationalité. Or, la rationalité, c'est pas ce qui définit l'attitude des politiques pendant le Covid. Loin de là. Pour Stiegler, c'est la panique et l'entêtement qui expliquent notre basculement soudain dans un régime autoritaire. Il ne faut pas oublier qu'au début, les politiques étaient dans le déni. Macron invitait les Français à se rendre au théâtre et à vivre normalement, avant de les enfermer chez eux 10 jours plus tard. La peur s'est installée doucement, insidieusement. La peur d'un nouveau virus, mais aussi et surtout la peur de la révolte sociale et de la panique d'un peuple qui deviendrait incontrôlable. C'est ce qui expliquerait la dissimulation de la réalité des décisions et leur annonce par paliers successifs. Le problème, c'est que, en agissant de la sorte, les gouvernants ont généré de la défiance et, nous dit Stiegler, ont rompu le contrat tacite des Lumières, fondé sur une rationalité partagée. Mais si la peur du virus et des répercussions sociales est la cause imminente de cette rupture, le mode de pensée néolibéral en serait en fait la cause profonde. En effet, les néolibéraux adorent faire la leçon à une population jugée inapte. À lui asséner, je cite, « la pédagogie des réformes ». Le peuple, en fait, dans la vision néolibérale, serait un enfant qu'il faudrait éduquer. Un enfant sous la tutelle du chef de l'État, véritable pasteur du troupeau qui sait désigner l'essentiel. Bienveillant, lui, c'est ce qui est bon pour nous. L'effet éminemment pervers de cette infantilisation du peuple, c'est qu'elle aboutit à une inversion des responsabilités. Les citoyens, pourtant victimes d'une politique qui a désarmé le système de santé, sont devenus, par leurs faits et leur indiscipline présumée, les véritables responsables des clusters et de l'épidémie. Les journalistes pouvaient alors demander aux autorités de, je cite, j'adore cette expression, siffler la fin de la récré. Et un préfet pouvait se permettre de se faire menaçant. C'est fini la bamboche. Si Stigler insiste sur le paradigme néolibéral comme explication première à la dérive antidémocratique, c'est parce que, pendant toute la crise, les dirigeants ont affirmé leur prétention au savoir, migrant des sacro-saintes lois de l'économie que seuls maîtriseraient, vers celles des épidémies, se contentant en fait d'hybrider quelques données épidémiologiques parcellaires avec des techniques de gouvernement nouvelles, nées de la rencontre entre les neurosciences et l'économie comportementale.
Tu fais référence à la théorie des nudges, c'est bien ça ?
Exactement. La théorie des nudges, ou du coup de pouce si vous préférez, ce qui correspond en fait à une méthode de gouvernement par l'incitation douce, montant en puissance depuis les années 2000. Et c'est pas une vue de l'esprit. Une nudge unit aurait bien été créée le 17 mars 2020 avec pour but d'imposer le confinement total à la population. C'est notamment cette nudge unit qui aurait conçu la fameuse attestation dérogatoire de déplacement. Bravo à elle. Rajoutons que la gestion du Covid n'est pas la première à avoir accouché de la création d'une nudge unit. Stigler nous apprend qu'une telle unité aurait déjà été créée en 2018, quelques mois après la première élection de Macron, au sein de la direction interministérielle de la transformation publique, soi-disant destinée à moderniser l'État en usant des très précieux conseils de cabinets privés à la démarche dénuée, bien évidemment, de toute idéologie et de toute accointance avec la pensée néolibérale. Selon Barbara Stigler, cette théorie repose sur des principes anthropologiques douteux. Elle serait surtout fondée sur un postulat central du nouveau libéralisme autoritaire apparu après la crise de 1929 et qui constitue une rupture avec le libéralisme classique. Si les libéraux classiques déniaient toute rationalité au peuple, ils croyaient à celle de l'individu égoïste et donc à la nécessité de laisser faire les interactions spontanées de la société civile et du marché. En découlait une volonté de restreindre le pouvoir du gouvernement. Mais avec la Grande Dépression de 1929 et au regard des dégâts économiques occasionnés, une petite frange des libéraux a procédé à une déduction anthropologique nouvelle qui fait de l'homme une espèce inadaptée, affectée de biais cognitifs, incapable de choix rationnels et toujours en retard sur les événements. Et contrairement aux libéraux classiques, les néolibéraux plaident pour un État fort, chargé de fabriquer le consentement de la population à une échelle industrielle en vue de la conduire, de préférence, en douceur et avec son accord, dans la bonne direction. L'ouvrage intitulé Nudge de Thaler et Sunstein, sous-titré Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, est paru en 2008, se serait contenté, selon Stigler, d'ajouter un vernis de neurosciences au mode de pensée néolibéral, lui conférant une caution scientifique. Et ce paradigme néolibéral est une voie sans issue, un cul-de-sac. À chaque fois qu'il y a une crise, plutôt que de s'interroger sur l'organisation économique et sociale, donc d'essayer de penser de manière systémique, l'économie doit se faire comportementale, c'est-à-dire qu'elle doit viser la transformation des comportements individuels qui sont présentés comme les seuls responsables de la situation. Vous voyez comme on retombe sur l'inversion des responsabilités. Dans le logiciel néolibéral, c'est uniquement le déficit épistémique des populations qui explique le basculement dans un monde de crise permanente. Ce logiciel a généré une nouvelle science de l'action publique, verticale, autoritaire, ne supportant aucune critique et taxant toute analyse systémique de complotisme. Le nudging occupe ici une place très importante de par son efficacité qui tient à des suggestions infraconscientes visant à stimuler l'acceptation sociale. On fabrique un consentement, on façonne un nouveau lexique, on modifie les comportements en modulant les environnements.
Il y a des exemples assez célèbres de nudge efficaces,
ouais,
pour permettre aux individus de faire les bons choix, c'est-à-dire de les pousser inconsciemment à faire les bons choix. Je ne sais pas si tu en connais certains.
Non, je t'écoute.
Une expérimentation notamment dans les toilettes publiques, au niveau des urinoirs pour hommes.
Okay.
C'est vrai que les hommes avaient tendance à uriner de manière très peu hygiénique en mettant partout. Et donc l'un des nudges les plus célèbres consistait à mettre une sorte de petite pastille à un endroit, pastille qui permettait de limiter les éclaboussures. Et les hommes, lorsqu'ils voyaient une tache de couleur dans l'urinoir, étaient tentés justement d'uriner sur cette tache de couleur, ce qui évitait les éclaboussures. Voilà une façon de guider inconsciemment le choix de l'individu en pariant sur son caractère un peu infantile.
Tout à fait, et ça fonctionne.
Oui, bah de fait, oui.
Parce qu'en fait, le nudging, il va être là pour dessiner une nouvelle architecture de choix. Il va construire un monde binaire. Donc, la distanciation sociale versus le relâchement. Les gestes barrières versus le cluster. Et in fine, le bien versus le mal. Et c'est ainsi que, de manière insidieuse, on désactive toute capacité d'examen critique public, c'est-à-dire politique, ou même privé, c'est-à-dire psychologique. Le nudging, qui est la base de la gestion macronienne de la crise sanitaire, a été complété par une stratégie tout à fait originale et inédite. Le gouvernement a commencé par écarter tous les dispositifs nationaux de santé publique, pour les remplacer, hors de tout cadre réglementaire, par une succession de conseils dépourvus de toute légitimité institutionnelle ou scientifique. On retiendra le CARE et son bel anglicisme, pour comité d'analyse, recherche et expertise, auquel s'ajoute un détournement inédit du Conseil de défense militaire, chargé d'établir dans le plus grand secret un plan conditionnant l'intégralité de nos vies pour une durée indéterminée. Ceci confirme au passage l'hypothèse d'une peur de la révolte populaire. Les consignes ainsi produites par ces conseils ad hoc quittaient pour Stigler le domaine de la République et du droit. Fabriquées sans le moindre fondement rationnel explicite, il suffisait qu'elles soient proférées par un ministre pour devenir la règle.
Ok, et est-ce que des leçons ont été tirées de cet épisode, notamment en ce qui concerne la gestion du secteur de la santé?
À ton avis?
Je dirais que non.
absolument pas. Absolument pas. Justement, on en parlait en off au début de l'épisode. On a l'impression que c'est devenu une sorte de sujet tabou que plus personne ne veut évoquer. D'où l'intérêt d'évoquer cet ouvrage aujourd'hui. Stigler nous dit qu'aucune leçon n'a été tirée de cet épisode. Dans le monde d'après, les soignants n'ont toujours pas repris les rênes de l'hôpital public aux gestionnaires. Et la santé est toujours pensé comme un secteur qui doit faire des efforts pour rentrer dans les clous de la réduction des déficits publics. Elle n'a toujours pas été réorganisée autour du soin, mais plutôt pensée comme la chasse gardée des grands groupes pharmaceutiques, des compagnies d'assurance et des start-up qui, c'est absolument certain, nous sauverons à la prochaine épidémie en faisant preuve de cette sacro-sainte innovation. Pire encore, le processus général semble même s'être accéléré. Et c'est la raison pour laquelle Stigler affirme que la gestion du Covid ne relève pas du complot, mais bel et bien en fait de l'effet d'aubaine. Le projet néolibéral a pu déployer son génie. Interdiction des mouvements sociaux, virage ambulatoire universel, conversion à la e-santé, au e-learning. Vous remarquerez au passage, comme tous les aspects de la vie semblent avoir été vidés de tout contenu collectif. Et c'est la raison pour laquelle, je pense qu'on en a déjà parlé, Pierre, même s'il peut passer pour une bonne chose, moi je demeure personnellement extrêmement méfiant à l'égard du télétravail. Rappelons-nous des mots de Proudhon et de sa théorie des forces collectives. Ce penseur absolument génial nous expliquait que le dirigeant, entendu au sens large, puisque ça peut être un capitaliste, un monarque ou un technocrate, spolie les travailleurs en les payant individuellement pour un travail collectif, qui est bien plus qu'une simple coordination. Proudhon donnait l'exemple très parlant de l'érection de la pyramide de Louxor, pour laquelle 200 ouvriers en une heure ont réussi une tâche qui aurait été impossible à faire pour un travailleur unique en 200 heures. Proudhon nous a donc démontré ici que le travail collectif n'est pas la simple addition du travail individuel des participants. Et les dirigeants profitent de ce mensonge pour empocher la plus-value générée par le travail collectif non rémunéré. Et quelle meilleure manière de dissoudre la perception collective du travail, ou d'invisibiliser le travail collectif, que d'isoler chaque travailleur chez lui. La e-santé, le e-learning, le télétravail sur Zoom, c'est le rêve néolibéral ultime. Manque plus que Uber Eats et Netflix. Et on n'est pas bien là. Pourquoi diable encore sortir de chez nous? C'est dangereux dehors. Il y a des virus tout plein. Non, je pense que c'est plus prudent de tout faire depuis chez nous et de bien écouter ce que nous disent les grandes personnes.
Effectivement. Est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'aucune opposition structurée ne se soit élevé contre cette dérive? On a une petite théorie là-dessus.
Ben, c'est un peu une conséquence de ce dont on parlait tout à l'heure, du nudge, en fait. Parce que le nudge, c'est l'hypnose. C'est une vague de mots pour donner l'impression qu'on est à l'écoute. Après les Gilets jaunes, on a eu droit au grand débat. Et après, on a eu droit au Ségur de la santé. On a aussi, en permanence, on en parlait tout à l'heure, l'inversion des responsabilités. Si ça va mal, c'est forcément à cause de nous, jamais à cause de ceux qui nous dirigent. Et en plus, on rajoute à ça une logique martiale. Nous sommes en guerre. Et cette logique martiale, en plus, elle s'est prolongée derrière, avec l'Ukraine, puis avec les événements au Moyen-Orient. Et du coup, un nouvel ordre moral qui exclut absolument tout débat, toute nuance, et divise le monde en deux catégories, s'est installé. Il y a finalement ceux qui ont le pistolet chargé de la doxa, et ceux qui creusent. Et mauvaise nouvelle, je crois bien que toi et moi, mon cher Pierre, on creuse.
Ah non, je crois en la science.
T'aimes bien Coldplay ?
Oui.
Les deux vont de pair en général. Aimer la science, croire en la science et aimer Coldplay, ça va de pair.
Effectivement.
Et cette hypnose, pour en revenir à l'hypnose du nudge, elle est quand même rudement efficace. Il y a un petit détail qu'on avait omis. Le monsieur qui a raté le déconfinement, donc le fameux monsieur déconfinement de l'époque, bah, il a raté le déconfinement parce qu'il y a eu un second confinement. Donc, à partir du principe qu'il a échoué. Et bah, dans la foulée, il a été nommé Premier ministre, entre-temps. Et c'est ce même monsieur qui avait mis en place, là, à l'époque, la tarification à l'acte à l'hôpital public.
La T2A, oui.
Faisant rentrer celui-ci dans la merveilleuse logique du chiffre et, du coup, participant à sa fragilisation. Et ce monsieur, le bien nommé Jean Castex, avait refusé d'augmenter le nombre de lits à l'hôpital en pleine pandémie, parce que, je cite, « ça voudrait dire qu'on a laissé se développer l'épidémie ». Il y a quand même que sous hypnose qu'on peut admettre ça de quelqu'un. Et encore, je précise une dernière chose, avant de clôturer cet épisode, c'est que l'essai de Stigler a été achevé au mois de décembre 2020. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait de mention de la séquence suivante, qui a été absolument fantastique, celle du pass vaccinal, des cafés debout et du masque obligatoire sur les sentiers côtiers. Quel zumba alors, c'était formidable. Mais là aussi, on a au niveau du pass, rappelle-toi, il y avait eu cette histoire de nudge et de décision par paliers successifs. Il y aura un pass sanitaire, il ne sera jamais vaccinal, il y a un pass vaccinal, mais ça ne sera pas pour les activités de tous les jours.
C'était les complotistes qui faisaient ça.
Ouais.
Heureusement, Julien Pain avait veillé à débunker toutes ces infox.
Je te laisse la responsabilité de ça. Je me désolidarise totalement de ces propos. Trêve de plaisanterie. Pour finir, on va citer Périclès, stratège et orateur athénien. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Merci à tous et à la semaine prochaine.
À bientôt.